Chapitre 20. Il est des poètes qui ont l'âme toute pleine de parfums et de fleurs, qui regardent la vie comme l'aurore du ciel, d'autres qui n'ont rien que de sombre, rien que de l'amertume et de la colère. Il y a des peintres qui voient tout en bleu, d'autres tout en jaune et tout en noir. Chacun de nous a un prisme à travers lequel il aperçoit le monde. Heureux celui qui y distingue des couleurs riantes et des choses gaies. Il y a des hommes qui ne voient dans le monde qu'un titre, que des femmes, que la banque, qu'un nom, qu'une destinée folle. J'en connais qui n'y voient que chemin de fer, marchés ou bestiaux. Les uns y découvrent un plan sublime, les autres une farce obscène. Et cela vous demanderait bien ce que c'est que l'obscène, une question embarrassante à résoudre comme question. J'aimerais autant donner la définition géométrique d'une belle paire de bottes ou d'une belle femme de choses importantes. Les gens qui voient notre globe comme un gros ou un petit tas de boue sont de singulières gens ou difficiles à prendre. Vous venez de parler avec un de ces gens infâmes, gens qui ne s'intitulent pas philanthropes et qui, sans craindre qu'on les appelle carlistes, ne votent pas pour la démolition des cathédrales. Mais bientôt vous arrêtez tout court, vous avouez vaincu, car ceux-là sont des gens sans principe, qui regardent la vertu comme un mot, le monde comme une bouffonnerie. De là, ils partent pour tout considérer sous un point de vue ignoble. Ils sourient aux plus belles choses et, quand vous leur parlez de philanthropie, ils haussent les épaules et vous disent que pour la philanthropie s'exerce que par une souscription pour les pauvres. La belle chose qu'une liste de noms dans un journal. Chose étrange que cette diversité d'opinions, de systèmes, de croyances et de folies. Quand vous parlez à certaines gens, ils s'arrêtent tout à coup effrayés et vous demandent « Comment ? Vous diriez cela ? Vous douteriez de cela ? Peut-on réformer le plan de l'univers et les devoirs de l'homme ?» Et si malheureusement votre regard a laissé deviner un rêve de l'âme, ils s'arrêtent tout à coup et finissent là leur victoire logique, comme ces enfants effrayés d'un fantôme imaginaire et qui se ferment les yeux sans oser regarder. Ouvrez-les, hommes faibles et pleins d'orgueil, pauvre fourmi qui rampe avec peine sur ton grain de poussière. Tu te dis libre et grand, tu te respectes toi-même, si vil pendant ta vie, et par dérision sans doute, tu salues ton corps pourri qui passe. Et puis tu penses une si belle vie, agitée ainsi entre un peu d'orgueil que tu appelles grandeur, et cet intérêt bas qui est l'essence de la société sera couronné par une immortalité. De l'immortalité pour toi, plus lascif qu'un singe, et plus méchant qu'un tigre, et plus rampant qu'un serpent, allons donc. Faites-moi un paradis pour le singe, le tigre et le serpent, pour la luxure, la cruauté, la bassesse, un paradis pour l'égoïsme, une éternité pour cette poussière, de l'immortalité pour ce néant. Tu te vantes d'être libre, de pouvoir faire ce que tu appelles le bien et le mal, sans doute pour que te condamne plus vite, car que saurais-tu faire de bon ? Y a-t-il un seul de tes gestes qui ne soit stimulé par l'orgueil ou calculé par l'intérêt ? Toi, libre, mais dès ta naissance, tu es soumis à toutes les infirmités paternelles. Tu reçois avec le jour la semence de tous les vices, de la stupidité même, de tout ce qui te fera juger le monde, toi-même, tout ce qui t'entoure, d'après ce terme de comparaison, cette mesure que tu as en toi. Tu es né avec un esprit étroit, avec des idées faites ou qu'on te fera, sur le bien ou sur le mal. On te dira qu'on doit aimer son père et le soigner dans sa vieillesse. Tu feras l'un et l'autre. Et si tu n'avais pas besoin qu'on te l'a pris, n'est-ce pas ? Cela est une vertu innée, comme le besoin de manger. Tandis que, derrière la montagne où tu es né, On enseignera à ton frère à tuer son père, devenu vieux, et il le tuera, car cela, pense-t-il, est naturel, et il n'était pas nécessaire qu'on le lui apprît. On t'élèvera en te disant qu'il faut te garder d'aimer d'un amour charnel ta sœur ou ta mère, tandis que tu descends comme tous les hommes d'un inceste, car le premier homme et la première femme, eux et leurs enfants, étaient frères et sœurs. Tandis que le soleil se couche sur d'autres peuples qui regardent l'inceste comme une vertu et le fratricide comme un devoir. Es-tu déjà libre des principes d'après lesquels tu gouverneras ta conduite? Est-ce toi qui préside à ton éducation? Est-ce toi qui a voulu naître avec un caractère heureux ou triste, physique ou robuste, doux ou méchant, moral ou vicieux? Mais d'abord, pourquoi es-tu né? Est-ce toi qui l'as voulu? T'a-t-on conseillé là-dessus? Tu es donc né fatalement, parce que ton père, un jour, sera revenu d'une orgie, échauffé par le vin et des propos de débauche, et que ta mère en aura profité, qu'elle aura mis en jeu toutes les ruses de femme poussées par ses instincts de chair et de bestialité que lui a donné la nature en faisant une âme, et qu'elle sera parvenue à animer cet homme que les fêtes publiques ont fatigué de l'adolescence. Quelque grand que tu sois, tu as d'abord été quelque chose d'aussi sale que de la salive et de plus fétide que de l'urine. Puis tu as subi des métamorphoses comme un ver, et enfin, tu es venu au monde, presque sans vie, pleurant, criant et fermant les yeux, comme par haine pour ce soleil que tu as appelé tant de fois. On te donne à manger, tu grandis, tu pousses comme la feuille. C'est bien hasard, si le vent ne t'emporte pas de bonheur, car à combien de choses es-tu soumis? À l'air, au feu, à la lumière, au jour, à la nuit, au froid, au chaud, à tout ce qui t'entoure, tout ce qui y est, tout cela te maîtrise, te passionne. Tu aimes la verdure, les fleurs, et tu es triste quand elles se fanent. Tu aimes ton chien, tu pleures quand il meurt. Une araignée arrive vers toi, tu recules de frayeur. Tu frissonnes quelquefois en regardant ton ombre, et lorsque ta pensée s'enfonce dans les mystères du néant, tu es effrayé et tu as peur du doute. Tu te dis libre, et chaque fois tu agis, poussé par mille choses. Tu vois une femme et tu l'aimes, tu en meurs d'amour. Es-tu libre d'apaiser ce sang qui bat, de calmer cette tête brûlante, de comprimer ce cœur, d'apaiser ces ardeurs qui te dévorent? Es-tu libre de ta pensée? Mille chaînes te retiennent, mille aiguillons te poussent, mille entraves t'arrêtent. Tu vois un homme pour la première fois, un de ses traits te choque, et durant ta vie, tu as de l'aversion pour cet homme que tu aurais peut-être chéri s'il avait eu le nez moins gros. Tu as un mauvais estomac, tu es brutal envers celui que tu aurais accueilli avec bienveillance, et de tous ces faits découlent ou s'enchaînent aussi fatalement d'autres séries de faits, d'où d'autres dérivent à leur tour. Es-tu le créateur de ta constitution physique et morale? Non, tu ne pourrais la diriger entièrement que si tu l'avais faite et modelée à ta guise. Tu te dis libre parce que tu as une âme. D'abord, c'est toi qui as fait cette découverte que tu ne saurais définir. Une voix intime te dit que oui. D'abord, tu mens. Une voix te dit que tu es faible et tu sens en toi un immense vide que tu voudrais combler par toutes les choses que tu y jettes. Quand même, tu croirais que oui. En es-tu sûr? Mais qui te l'a dit? Quand, longtemps combattu par deux sentiments opposés, après avoir bien hésité, bien douté, tu penches vers un sentiment, tu crois avoir été le maître de ta décision. Mais pour être maître, faire le bien ou le mal, puisque c'est le sentiment du bien qui te dirige toujours, tu ne peux faire le mal. Ce combat est la lutte de ces deux penchants. Et si tu fais le mal, c'est que tu es plus vicieux que vertueux, et que la fièvre la plus forte a eu le dessus. Quand deux hommes se battent, il est certain que le plus faible, le moins adroit, le moins souple, sera vaincu par le plus fort, le plus adroit, le plus souple. Quelque longtemps que puisse durer la lutte, il y en aura toujours un de vaincu. Il en est de même de la nature intérieure. Quand même ce que tu sens être bon l'emporte, la victoire est-elle toujours la justice? Ce que tu juges le bien, est-il le bien absolu, immuable, éternel? Tout n'est donc que ténèbres autour de l'homme, tout est vide, et il voudrait quelque chose de fixe. Il roule lui-même dans cette immensité du vague où il voudrait s'arrêter. Il se cramponne à tout, et tout lui manque. Patrie, liberté, croyance, Dieu, vertu. Il a pris tout cela, et tout cela lui est tombé des mains. Il est comme un fou qui laisse tomber un verre de cristal et qui rit de tous les morceaux qu'il a faits. Mais l'âme a une âme immortelle et faite à l'image de Dieu. Deux idées pour lesquelles il a versé son sang. Deux idées qu'il ne comprend pas. Une âme, un Dieu, mais dont il est convaincu. Cette âme est une essence autour de laquelle notre être physique tourne comme la terre autour du soleil. Cette âme est noble, car étant un principe spirituel, n'étant point terrestre, elle ne saurait rien avoir de bas, de vil. Cependant, n'est-ce pas la pensée qui dirige notre corps? N'est-ce pas elle qui fait lever notre bras quand nous voulons tuer? N'est-ce pas elle qui anime notre chair? L'esprit serait-il le principe du mal, et le corps l'agent? Voyons comme cette âme, comme cette conscience est élastique, flexible, comme elle est molle et maniable, comme elle se ploie facilement sous le corps qui pèse sur elle. C'est elle qui vend le corps, la main, la tête et la langue. C'est elle qui veut du sang et qui demande de l'or, toujours insatiable et cupide de tout dans son infini. Elle est au milieu de nous comme une soif, une ardeur quelconque, un feu qui nous dévore, un pivot qui nous fait tourner sur lui. Tu es grand, homme, non par le corps sans doute, mais par cet esprit qui t'a fait, dis-tu, le roi de la nature. Tu es grand, maître et fort. Chaque jour, en effet, tu bouleverses la terre, tu creuses des canaux, tu bâtis des palais, tu enfermes les fleuves entre des pierres, tu cueilles l'herbe, tu la pétris et tu la manges, tu remues l'océan avec la quille de tes vaisseaux, et tu crois tout cela beau. Tu te crois meilleur que la bête fauve que tu manges, plus libre que la feuille emportée par les vents, plus grand que l'aigle qui plane sur les tours, plus fort que la terre dont tu tires ton pain et tes diamants, et que l'océan sur lequel tu cours. Mais hélas, la terre que tu remues renaît d'elle-même. Tes canaux se détruisent, les fleuves envahissent les champs et les villes. Les pierres de tes palais se disjoignent et tombent d'elles-mêmes. Les fourmis courent sur les couronnes et sur tes trônes. Toutes tes flottes ne seraient marquées plus de traces de leur passage sur la surface de l'océan qu'une goutte de pluie et que le battement d'ailes de l'oiseau. Et toi-même, tu passes sur cet océan des âges, sans laisser plus de traces de toi-même que ton navire n'en laisse sur les flots. Tu te crois grand parce que tu travailles sans relâche, mais ce travail est une preuve de ta faiblesse. Tu étais donc condamné à apprendre toutes ces choses inutiles au prix de tes sueurs. Tu étais esclave avant d'être né et malheureux avant de vivre. Tu regardes les astres avec un sourire d'orgueil parce que tu leur as donné des noms, que tu as calculé leur distance comme si tu voulais mesurer l'infini et enfermer l'espace dans les bornes de ton esprit. Mais tu te trompes. Qui te dit que derrière ces mondes de lumière il n'y en a pas d'autres, infinis encore et toujours ainsi? Peut-être que tes calculs s'arrêtent à quelques pieds de hauteur et que là commence une échelle nouvelle de faits. Comprends-tu toi-même la valeur des mots dont tu te sers étendue, espace. Ils sont plus vastes que toi et ton globe. Tu es grand et tu meurs, comme le chien et la fourmi, avec plus de regrets qu'eux. Et puis tu pourris, et je te le demande, quand les vers t'ont mangé, quand ton corps s'est dissous dans l'humidité de la tombe et que ta poussière n'est plus, où es-tu, homme? Où est même ton âme, cette âme qui était le moteur de tes actions, qui livrait ton cœur à la haine, à l'envie, à toutes les passions, cette âme qui te vendait et qui te faisait fuir tant de bassesse, où est-elle? Est-il un lieu assez saint pour la recevoir? Tu te respectes et tu t'honores comme un dieu. Tu as inventé l'idée de dignité de l'homme, idée que rien dans la nature ne pouvait avoir en te voyant. Tu veux qu'on t'honore et tu t'honores toi-même. Tu veux même que ce corps si vil pendant ta vie soit honoré quand il n'est plus. Tu veux qu'on se découvre devant ta charogne humaine, qui se pourrit de corruption, quoique plus pure encore que toi quand tu vivais. C'est là ta grandeur, grandeur de poussière, majesté de néant.